Il est politologue, il est chroniqueur et il est notre spécialiste des questions internationales. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
D'abord, la saga de Trump, évidemment, la saga, dirions-nous, judiciaire se poursuit.
Ah oui, ça se poursuit. Et aujourd'hui, on a appris que le procureur de l'État de New York, Mme Barbara Underwood, a décidé de poursuivre Trump devant les tribunaux. Elle dit que la Fondation Trump s'est engagée dans une coordination politique illégale excessive, entre autres en se servant de l'argent de la Fondation pour rembourser des créanciers, pour décorer un terrain de golf à des fins politiques et pour organiser des concours en marge de la campagne présidentielle. Donc, elle poursuit non seulement Trump, mais Donald Trump Jr., Ivanka et Eric aussi, donc les enfants de Donald Trump. Elle réclame 2,8 millions de dollars et la dissolution de la fondation de Trump. Trump, évidemment, a dit qu'il n'y avait rien fait d'illégal, que la fondation avait ramassé 19,2 millions et que 18,8 millions étaient allés à des œuvres de charité. Alors, on verra ce qui va arriver avec ça, mais ça fait partie de cette grande et vaste saga sur Donald Trump.
OK, mais là, il pourrait quoi, être condamné?
Il pourrait être condamné.
Lui ou la fondation?
Lui, la fondation et ses enfants. Ben, il va se gracier, peut-être.
Mais il est poursuivi lui-même, là?
Oui, oui. Et on poursuit Donald Trump.
Donc, il y a une procureure à New York qui poursuit le président américain parce qu'il a mal utilisé, il a détourné, dans le fond, les fonds qui étaient destinés à des organismes de charité.
Comme ça, exactement.
Pour détournement de fonds. À des fins politiques.
Exactement.
Mais ça n'arrête pas de bien aller.
Ça va très bien pour Donald Trump.
Ça va très, très
bien.
Et
il faut bien dire, c'est pas les montants qui sont importants ici, c'est le geste. Ouais. C'est ça. Ça peu importe que ce soit 100 millions de dollars ou 2 millions, c'est pas ça le problème.
OK. Continuons. Trump et la Corée du Nord maintenant.
Alors, c'est Mike Pompeo, en fait, qui a énuméré de manière générale les conditions requises pour la levée des sanctions contre la Corée du Nord. Il a dit, c'est très simple, on ne lèvera pas les sanctions tant qu'il n'y aura pas une dénucléarisation complète.
Ah ben ça, c'est correct, ça.
Oui.
Ça, j'espère que c'est... On parce que là, déjà, il a suspendu les exercices militaires.
Oui. Hein? On est d'accord. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est qu'en Corée du Nord, les médias, eux, ont dit que les sanctions seraient levées au fur et à mesure que la dénucléarisation avancerait. Alors, il y en a un des deux qui se trompe.
Il y en a un des deux qui ment.
Disons qu'ils n'ont pas compris la même chose. Alors, Pompeo a repris donc les termes d'une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible.
Ça veut dire que tu détruis tes missiles, mon bonhomme. Là.
Ouais. Sauf que quand même, en conférence de presse, tout de suite après la rencontre entre Kim et Trump, Trump avait déclaré que les sanctions allaient demeurer en place jusqu'à ce que les armes nucléaires ne soient plus un facteur à considérer. Alors ça laisse la place à toutes sortes d'interprétations. Quand est-ce que ça cesse d'être un facteur à considérer? Quand elles sont détruites ou quand on trouve qu'elles sont moins menaçantes?
Alors si tu déboulonnes, si tu enlèves, mettons, la tête nucléaire du missile...
Ah, c'est plus un facteur à considérer, peut-être. C'est ça. Alors tu l'enlèves de la rampe de lancement. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire.
Bien sûr.
Ça devient... autre chose. En tout cas, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que Pompeo va rencontrer Xi Jinping, le président chinois, pour lui rapporter ce qui s'est passé au sommet entre Kim et Trump.
Pas mal sûr qu'il le sait déjà.
Oui, ça, c'est possible.
Il y avait quelques micros dans la salle, je pense, plantés par des Chinois. À Singapour? Oh là là!
Singapour est très proche du gouvernement chinois.
Mais
tu as raison. Et en plus, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui semble, qui va arriver. C'est une rencontre entre Kim Jong-un et Shinzo Abe.
Ah oui!
Oui. Shinzo Abe,
le premier ministre japonais.
Ça sera en train de s'organiser.
Oh, donc, ça, c'est intéressant.
Oui, on va voir ce qui va arriver.
Parce que c'est les Japonais qui sont, d'une certaine façon, les plus menacés. En tout cas, c'est eux qui ont vu les missiles de plus près.
C'est eux qui sont aux premières lignes. Hein? Oui, c'est ça que je dirais. Je pense pas que la Corée du Nord tire jamais de missiles sur le Japon.
Non, mais je te dis que eux, les Japonais, se sentent.
Oui, mais ça fait partie, ça, de toute la rhétorique du gouvernement de Shinzo Abe, qui veut modifier sa constitution.
Ouais.
Parce qu'il trouve qu'elle est trop américaine. Il voudrait revenir à une constitution qui ressemblait à celle qu'il y avait du temps où le Japon était nazi.
Pour qu'il puisse se défendre.
D'abord pour modifier l'article 9, qui empêche, en théorie, d'avoir une armée. Remarque qu'ils ont des forces d'autodéfense qui sont exactement comme une armée, mais qui puisse avoir une plus grosse armée peut-être, et puis changer aussi un certain nombre de droits dans la Constitution.
Et qui sait peut-être qu'un jour, si le parapluie nucléaire américain n'est plus là, ça pourrait donner des idées à un gouvernement japonais de développer l'arme nucléaire.
Oh, moi, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont cette bombe. Elle est simplement en pièces détachées. La seule question, c'est en combien de temps on rattache les pièces. Ça va être, pour certains, de quelques minutes à quelques mois.
En tout cas, ils ont des centrales nucléaire en masse au Japon pour avoir le carburant, nécessaire pour avoir une bombe nucléaire. Très bien. Pourtant, eux, ils savent c'est quoi. Eux, ils ont connu.
Ah oui.
Eux, à Nagasaki, Hiroshima, eux autres, ils savent c'est quoi.
Absolument, ils savent.
Pas mal proche du Japon, pas mal proche du Japon.
Les gens ne le savent pas, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils travaillaient aussi à la fabrication d'une bombe atomique. Et devant le port de Tokyo, coulé au fond de la mer, il y a des centrifugeuses qui servaient justement à concentrer l'uranium.
Yémen.
Ça va très mal au Yémen parce qu'il y a une grande bataille qui a commencé hier à la ville portuaire de Hueida. C'est une ville qui reçoit énormément d'aide humanitaire et donc ça pose de graves problèmes. Il y a des batailles, il y a des combats, à 2 kilomètres de l'aéroport et au sud de la ville. Jusqu'à présent, on compte 39 morts de part et d'autre.
Mais précisons, Loïc, parce qu'il faut, il faut à un moment donné être clair. Le Yémen, c'est important parce que les batailles qui se déroulent là, dans les faits, c'est une guerre par procuration qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite.
Exactement. Et ce qui se produit, c'est que l'Iran soutient les Houthis, qui sont une tribu très importante nationale là. Et en fait, je vais le dire comme ça, l'Arabie Saoudite soutient un gouvernement de collaboration au Yémen. C'est ça qui se produit.
Un gouvernement de collaboration avec l'Arabie Saoudite.
Avec l'Arabie Saoudite, exactement.
Et donc, c'est un affrontement, dirions-nous, entre sunnites et chiites.
Exactement.
Hein, c'est ça?
Exactement. Mais c'est plus que ça aussi. C'est pour contrôler cet endroit qui est stratégiquement très important, c'est vrai. C'est pour contrôler, c'est une guerre d'influence dans la région aussi. Il y a tout ça qui joue.
Mais c'est les intérêts iraniens et les intérêts saoudiens qui s'affrontent.
Absolument.
Et c'est pour ça qu'il faut suivre.
Et l'armée saoudienne est armée jusqu'aux dents par les Américains.
Bien sûr.
Alors que les Houthis n'ont pas beaucoup d'armes.
Sauf que les Houthis, ils tiennent leur bout, là.
Ah oui, ce sont des combattants féroces, semble-t-il. Et ils font de la guerre de guérilla. Donc ça fait mal, ça aussi, à l'Arabie saoudite.
Très bien. Alors c'est pour ça que, mesdames et messieurs, on va continuer à vous rapporter ce qui se passe au Yémen.
Oui, il y a quand même eu 10 000 morts en 3 ans dans cette guerre.
C'est barbare ce qui se passe là-bas. Là.
Totalement. Et il y a des millions de personnes qui sont menacées de famine en ce moment. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que ce port soit trop affecté.
Voilà, Loïc Tassé, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Dans un instant, restez avec nous parce qu'on va vous parler de la grippe espagnole. Il y a 100 ans de ça et ça avait touché le Québec, ça avait foudroyé le Québec et vous allez avoir une histoire qui fait peur en quelque part, là. Des gens qui on pensait qu'ils étaient morts, on les a enterrés vivants, tellement on avait peur de contracter le virus qui était à l'origine de la grippe espagnole. Après la pause.